Alors, de ce collège de Moncel, il a 13, 14 ans, 15 ans, ça va jusqu'à 15 ans. Il y travaille très peu, il y fait peu d'amis, enfin, il en garde des souvenirs qui vont apparaître dans De si braves garçons, et il fait des fugues. Alors, il quitte le collège, va sur Paris en stop ou en autobus quand il a un peu d'argent, arrive bizarrement aux portes d'Orléans. C'était le trajet des bus, et traîne dans Paris chez quelques amis. Les parents ne sont pas là. Quand les parents sont là, ils le renvoient au collège. Mais au collège, il a très mauvaise presse puisque les parents payent très très mal ce qu'ils devaient payer, enfin, les scolarités. Se retrouvant à 15 ans à Paris, il est bien aise de rencontrer dans un bistrot, sur les quais de Seine, des amis de ses parents qui le recueillent, qui l'hébergent. Il évoquait ça dans plusieurs de ses romans. On comprend, n'est-ce pas, qu'il a eu à 15 ans un amour fou pour une femme beaucoup plus âgée que lui, qui était une amie de sa mère, qui était très galante, qui même, semble-t-il, se prostituait. Et quand il débarquait lors d'une fugue à Paris, elle le prenait chez elle. Elle le nourrissait. Se contentait-elle de le nourrir? Je n'en sais trop rien. Par la suite, ses parents le jettent, et toujours dans les mêmes conditions, sans payer régulièrement les scolarités, dans un collège, alors, de ecclésiastique, religieux, de discipline très très stricte, à Thônes. Thônes, c'est au-dessus d'Annecy. C'est à 25-30 km d'Annecy. De ce séjour à Annecy, 2 années à Annecy, il va y passer le premier bac. Il va garder des souvenirs très précis qui alimentent ses romans, et notamment Encre sympathique, puisque le personnage féminin d'Encre sympathique est une jeune fille d'Annecy. Dans son recueil de nouvelles des inconnues, l'une d'entre elles a passé toute sa jeunesse, sa triste jeunesse, à Annecy. Elle n'a qu'une idée, c'est quitter Annecy et filer à Paris. Bizarrement, à Vaugirard. Le nom de Vaugirard fait rêver cette jeune fille. Bon, il est vrai que c'est la rue la plus longue de Paris. Alors, dans ce collège, il est très malheureux. Il a des ennuis de santé. Il a même dû, n'est-ce pas, se faire trouver un médecin pour se faire soigner de la gale, qui est une sale maladie. Bon, la gale et la teigne. Il y lit beaucoup avec la protection d'abbés, de professeurs de lettres, d'ecclésiastiques intelligents, qui le dispensent, n'est-ce pas, de certaines heures, notamment de la gymnastique, bon, des abbés intelligents, et qui n'appliquaient pas les règlements. Les abbés lui permettent de lire les ouvrages interdits, du genre Manon Lescaut, des romans de Balzac un peu sulfureux, etc. Dans son autobiographie Un pédigré, il donne le détail de ses lectures, et c'est un lecteur boulimique. Il y passera le baccalauréat, première partie, il y sera reçu de justesse, n'étant pas du tout doué pour les études universitaires. Que faire? Il rentre à Paris. Alors, ses parents se souciaient si peu de lui que, sans lui envoyer beaucoup d'argent, on le laissait traîner tout l'été à Annecy. Il ne rentrait pas dans sa famille, ce n'était pas une famille. Alors, à Annecy, il a rencontré mille et une personnes en villégiature, quelquefois des gens douteux. Tout cela, n'est-ce pas, sera recueilli dans ses livres. Et vous avez un très beau roman dont un film qui n'a pas eu de succès a été tiré, qui se nomme Villa Triste, qui se déroule tout entière à Annecy. Il y a quelques transpositions. Il y a le nom d'une avenue, c'est une grande avenue de Nice. Bon, il y a quelques détails, c'est Thonon-les-Bains, c'est pas Annecy. Mais en réalité, tout se passe à Annecy. Et là, vous avez un jeune homme à l'identité douteuse, qui ne sait pas très bien quoi faire, qui se cache à Annecy parce qu'il n'a pas envie du tout d'être repéré par l'autorité militaire et envoyé faire la fin de la guerre d'Algérie sur le terrain. Et ce personnage rencontre à Annecy une très jolie jeune femme qui rêve de faire une carrière de star du cinéma. Mais elle ne passera pas le pas de partir à Hollywood. Elle va rester dans un milieu médiocre, à Annecy à gagner des concours de beauté. Et c'est tout. C'est beaucoup, déjà. Alors, vous avez l'évocation de diverses personnalités, des nuits d'Annecy, les grands hôtels, le casino d'Annecy, des Suisses équivoques qui viennent jouer beaucoup d'argent au casino d'Annecy. On se demande pourquoi ils viennent et comment il se fait qu'ils aient tant d'argent. Et puis, des allusions à des passages de personnes et à des trafics étranges entre la France et la Suisse. C'était l'époque de la fin de la guerre d'Algérie, et il y avait des négociations occultes entre, pour clore cette guerre, entre le gouvernement français, d'une part, et des représentants du Front de Libération Nationale d'Algérie, le FLN, installé à Genève. Et ces gens-là se rencontraient à Annecy, à Genève, dans la plus grande discrétion, et il y avait bien sûr des affaires d'argent, puisque le FLN avait quantité de militants en France métropolitaine. Donc il fallait munir ces gens, les clandestins, les aider à vivre, et munir les militants d'armes, d'explosifs. Bon, c'était cette fin sordide de la guerre d'Algérie. Alors le roman Ville la Triste évoque tout cela à mots couverts. Il revient à Paris, retrouve ses tristes parents. Alors le père s'était séparé de la mère, ayant pris une maîtresse, une hôtesse de l'air italienne, qu'il avait repérée je ne sais où, Patrick Modiano ne le sait pas non plus. Elle ressemblait, c'est pas flatteur, à une actrice qui a joué des films très déshabillés dans les années 50-60, Mylène de Mongeau. Cette femme, maîtresse de son père, qui vit, n'est-ce pas, au-dessus de la mer, c'est commode. Bon, d'où des scènes de ménage entre les époux, et puis la maîtresse du père exècre Patrick Modiano. Et le père se refusait à donner les moindres sous à son fils, et le père a quand même commis cette saleté d'aller prévenir l'autorité militaire que son fils devançait l'appel, ne sollicitait pas un sursis. Donc le père voulait se débarrasser de son fils en faisant lui un militaire malgré lui. Hein, c'était l'époque où le service militaire en Algérie durait quelquefois 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'était occasion de se débarrasser du fils. Alors le fils a protesté et la maîtresse du père a appelé police secours. Et le fils a été amené à un commissariat dans un panier à salade. C'est ainsi qu'on appelait les fourgons cellulaires. Bon, le fils a donc vécu ce que le père avait vécu pendant l'occupation, quand il était arrêté par la police française, livré aux Allemands, mais sauvé in extremis par des copains collaborationnistes. Modiano le dit, n'est-ce pas, dans un pédigré, et il revient dans un certain nombre de romans, puisqu'il a fait de son père un personnage. Donc, échappant à l'armée, n'ayant aucune envie de faire son service militaire, Modiano s'est inscrit au lycée Henri IV pour y passer la philosophie. Alors là, il a eu de la chance. Puisqu'il est bachelier, il a eu son deuxième bac. À l'époque, il y avait les deux bacs. Il a, ne logeant plus chez ses parents, mais chez un ami, il a été pris d'affection par un habitant de l'immeuble qui n'était autre que Raymond Queneau. Raymond Queneau s'est pris d'affection pour ce jeune homme très grand, timide, triste, mélancolique même. Queneau lui a donné des leçons de mathématiques, l'a encouragé dans ses études de philosophie, et de justesse, il a été reçu à son bac de philo. Après, il s'est inscrit en hippocagne, mais n'a pas suivi de cours, et pas plus qu'en Sorbonne, il ne suivait le moins de cours. Il traînait dans le quartier, il allait beaucoup au cinéma, sachant tricher, n'est-ce pas, pour entrer sans payer. Il paraît qu'il y a des techniques dans certains cinémas. Mais il suffit de prendre à rebours les sorties de secours des cinémas. Oui, oui. En ce temps-là, dans les cafés, il a rencontré toutes sortes de gens. On était un peu avant mai 68, des intellectuels de toutes sortes, des aventuriers. Il était là, disponible, taciturne. Je trouve que c'est un très beau garçon, mais je suis mauvais juge. C'était un très beau garçon. Vous avez un cahier spécial de Lerne, consacré à Patrick Modiano, où il y a des photos de lui jeune. Raymond Queneau sera son témoin de mariage. C'est vous dire, n'est-ce pas bon. Et Queneau a dû attirer plus tard son attention sur, ils ne se sont pas connus, sur la qualité extraordinaire d'un de ses disciples, Pérec. Oui, les romans de Georges Pérec ont à voir avec ceux de Modiano. Pérec est juif, obsédé par la disparition de sa mère, raflée en 1943. Modiano, juif, est obsédé par ces questions-là, à cause du comportement de ses parents. Et il y a des analogies entre les romans de Pérec et les romans de Modiano. Il a traîné comme cela à Paris, élargissant un peu ses connaissances du fait que souvent il allait chercher sa mère dans les théâtres de Montmartre où elle jouait du boulevard comme actrice. Et là, il a rencontré d'autres comédiennes, comédiens et comédiennes liées plus ou moins à sa mère, et notamment cette actrice qui vient de disparaître, Anna Karina, qui fut l'une des épouses de Jean-Luc Godard. Il raconte comment aussi il s'est lié... Alors attendez, sa mère jouait avec une actrice qui s'appelait Michèle Simoneau, ça ne vous dit rien. Mais Michèle Simoneau, c'est la mère de Catherine Deneuve et de sa sœur Françoise d'Orléac, morte très jeune. Catherine Deneuve, vous connaissez. La mère était comédienne, il a très jeune... connu Catherine Deneuve et surtout sa sœur, Françoise d'Orléac. Et il a préfacé la biographie de Françoise d'Orléac, écrite par Catherine Deneuve, sa sœur, ou que Catherine Deneuve a prié un journaliste d'écrire. Je ne sais pas si Catherine Deneuve sait beaucoup, mais bien écrire. Donc il a rencontré, vous voyez, des gens du spectacle, du cinéma, peut-être Jean-Luc Godard, ce qui vous explique que plus tard, devenu un romancier, on lui demandera, parce qu'il connaît un peu le métier, on lui demandera de faire le scénario, Louis Malle lui demandera de faire le scénario de ce film qui a eu succès et scandale à la fois, La Combe Lucien, l'histoire d'un jeune homme d'un département du centre de la France qui hésite entre le maquis et la milice, qui finalement choisit la milice et qui va y passer, puisque les résistants vainqueurs fusillent, comme on le sait, les miliciens. Bon. Film attachant. Donc Modiano a eu assez tôt, vous voyez, ses entrées, grâce à sa mère, dans les milieux du spectacle. Une autre relation qu'il eut, alors comment l'a-t-il connue ? Par un compositeur de musique de chanson, qui était un de ses amis, qu'il avait connu, je crois, au lycée Henri IV. Et ce garçon, Hugues de Courson, fabriquer des musiques de films et des musiques de chansons. Et Modiano a fabriqué, grâce à lui, toute une série de textes, de chansons pour Françoise Hardy, jeune chanteuse, et notamment la chanson « Étonnez-moi Benoît ». Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Le texte est de Modiano, il a fait 5-6 chansons. Donc il papillonnait de jolie femme en jolie femme. Je ne sais pas jusqu'où allaient ces relations. Il y a une très jolie photo de lui faisant de la barque sur le lac du Bois de Boulogne, avec Françoise Hardy, qui est charmante, et lui est très beau. Ils ont l'air d'être très heureux d'être ensemble. Bon. Ils sont fort jeunes. Pour gagner son argent, il l'a avoué dans un pédigré, et puis certains personnages qui sont ses doubles, qui donc, se dit-on, lui ressemble, ont ce comportement-là. Il volait des livres rares, des livres précieux, qu'il allait revendre à des bouquinistes, à des trafiquants, des receleurs, quelquefois, ou à des marchands de livres anciens qui n'étaient pas très scrupuleux sur l'origine, n'est-ce pas ? Bon. Il s'en excuse humblement, dans un pédigré, et jure qu'il ne... qu'il a fait cela quand il était aux abois, qu'il ne recommencera pas. Je veux bien le croire. Maintenant qu'il a le prix Nobel, il n'a plus aucune raison de voler des livres précieux.